Nous ne voulons pas haïr ni humilier personne. Nous voulons donner le bonheur à notre prochain, pas lui donner le malheur. Nous pouvons tous avoir une vie belle et libre.
Une histoire numérique des campagnes américaines.
Donald Trump aime les phrases courtes. Des analyses linguistiques de ses déclarations ont montré qu'il s'exprime à un niveau de langage qu'un gosse de 10 ans peut comprendre. Il arrive un moment où la vitesse de communication politique dépasse le point où la délibération, c'est-à-dire l'expression d'un vrai consentement populaire, est possible.
Hashtag Trump contre hashtag Clinton. Le premier va plus vite que le second. Il provoque une disruption, encore un mot nouveau qui dit bien ce qu'il veut dire. La technologie va plus rapidement que son interprétation, laquelle peine à suivre. En même temps, l'idée qu'il faut aller chercher les électeurs là où ils se trouvent, ce n'est pas précisément nouveau. Dans les années 1930, on commença à utiliser la radio, dans les années 1960, la télévision. Aujourd'hui encore, ces talk-shows sont capables d'étonner, ces grands débats, d'attirer beaucoup d'Américains. Ce soir, NBC espère en rassembler derrière le poste 90, voire 100 millions. Trump, qui est un camelot né, a d'abord fait, on le sait, de la télé-réalité son marché. Et maintenant, il saute au col des badauds avec ses tweets. Sa manière n'est pas du tout celle d'Obama, qui avait pourtant mis le numérique au centre de sa campagne dès 2008. Obama suivait une route, tenait un cap, voulait le faire partager dans l'espace public par le maximum d'internautes. Mais 2008, c'était une chose. Et aujourd'hui, 2016, c'est une rébellion, une élection envahie par les électeurs. Ravis de pouvoir glisser leur grain de sable dans le système. Jusqu'où croient-ils les mots volontairement excessifs de Trump et ceux qu'ils jettent eux-mêmes dans l'arène ? Difficile à dire. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que les qualités que les réseaux sociaux attendent des candidats sont radicalement différentes de celles que requiert la fonction à laquelle ils aspirent.
La marche de l'histoire. Jean Lebrun sur France Inter.
En compagnie de Pierre Aski, bonjour.
Bonjour.
Que tout le monde connaît comme le fondateur de Rue 89. Rue 89 qui est suivi par de nombreux internautes qui se sont appelés eux-mêmes...
Les riverains.
Ouais.
Les gens nous écrivaient en disant « Nous sommes les riverains de votre rue ». Et c'est resté.
Ça vient d'en bas.
Et c'est même rentré dans le dictionnaire.
Ça vient d'en bas.
Tout à fait.
Bottom up, il faut qu'on utilise des mots savants aujourd'hui.
En anglais.
En anglais, bien évidemment. On va commencer, si vous le voulez bien, au début du troisième millénaire. C'est à ce moment-là, d'ailleurs, un peu avant la campagne de 2004, qu'apparaissent les réseaux sociaux. Mais enfin, ça sert à quoi, les premiers réseaux sociaux ?
Alors, ça sert d'abord à draguer. Il faut connaître l'histoire de Facebook. C'est Zuckerberg, à l'université de Harvard, qui veut se venger de sa copine qui l'a lâché et qui crée un réseau dans lequel on va pouvoir draguer.
Donc, draguer dans certains milieux.
Dans le milieu universitaire, ouais. Uniquement. Alors, c'est d'abord Harvard, ensuite les autres universités. Mais en 2003-2004, on est encore au balbutiement de cette histoire des réseaux sociaux et on n'a pas compris encore la portée. Alors, vous avez employé le mot disruptive tout à l'heure, on va le garder parce qu'il est très expressif.
Souvent,
pour beaucoup de gens à l'époque, Internet, c'est juste un espace de plus sur lequel on fait la même chose.
Mais un espace de plus où on organise les choses se mandant différemment, visuellement différemment, sur des sites. Alors, sur un site de candidat en 2004, vous avez le portrait de l'équipe.
Oui, c'est une bonne manière d'organiser la campagne. On a les affiches, enfin, ce que vous feriez normalement dans le bureau du candidat dans votre quartier, vous le faites sur son site. Vous venez chercher le dernier tract, l'affiche, la liste des gens que vous devez contacter, bref, tout le matériel de la campagne.
Avec cependant déjà quelques espaces contributifs.
Les blogueurs existent déjà, ils occupent déjà une place très importante et on commence à penser qu'ils ont de l'influence. Je pense que ça n'a pas encore percé en dehors de cet univers numérique, mais en tout cas, l'univers des blogueurs existe, c'est un monde parallèle.
Alors, on l'est donc dans la plus haute antiquité encore. Et le candidat républicain dans la série House of Cards a une idée qui n'est pas nécessairement géniale, mais dont il pense qu'elle va gêner son adversaire démocrate. À côté de ses discours écrits, qui sont sur son site, en live, il décide de se faire filmer, mais en famille, bien sûr, comme la tradition l'exige.
Papa, c'est à quelle heure ?
À quelle heure ?
Will, Pour Instagram. Attention, souris, Charlie.
Génial. Allez, c'est parti. Tout est prêt?
Oui, monsieur. Vous pouvez tout lancer.
C'est à nous.
Bonsoir, l'Amérique. Je suis Will Conwell, candidat républicain à la présidence. Et voici mon fils, Charlie. Et voici Anna, ma femme. Et notre petite coquine Lily.
Eh bien, elle n'est plus si petite que ça maintenant, mais c'est toujours une coquine, hein, ma chérie.
Et nous sommes en train de nous filmer avec une webcam à l'intérieur de notre maison à Albany. Comme vous pouvez le constater, on ne vit pas dans la résidence du gouverneur. On vit dans une maison classique, comme la majorité d'entre vous. Et ça, c'est notre salon. C'est Anna qui a choisi toute la décoration. À partir de maintenant, tous les mails que je recevrai et que j'enverrai, ainsi que les photos et vidéos se trouvant sur ce téléphone, ainsi que tout ce que j'ai fait depuis que je suis gouverneur, tout sera accessible.
Ouais, tout ce qu'il vous reste à faire, c'est aller sur mon site de campagne. L'adresse ?
www.conway2016.com.
C'est exact. Et là, vous trouverez un lien. Notre vie est votre vie. Et que Dieu bénisse l'Amérique.
Ah, le thème des liens, ça c'est important.
Oui, tout à fait. Ben, on rentre déjà quand même dans l'univers d'Internet où on s'échange des liens et cette profusion de liens qui circulent, c'est la force aujourd'hui de cette viralité. Mais ce qui est intéressant dans cet extrait, c'est que on est quand même dans quelque chose d'extrêmement classique. On aurait fait la même chose à la télévision auparavant. Simplement, là, il y a l'idée que c'est sur un site. Vous pouvez aller le voir quand vous voulez. Vous pouvez le partager et l'envoyer à vos amis.
2004, c'est cependant un pas en avant avec la candidature aux primaires démocrates du gouverneur du Vermont, c'est-à-dire d'un petit état du Nord-Est qui n'est pas franchement représentatif, et qui décide d'appliquer une ou deux idées qui sont assez sensationnelles.
Oui, et en particulier, Wardeen va s'appuyer sur les communautés de blogueurs, et à travers une plateforme qui existe toujours d'ailleurs, qui s'appelle meetup.com, qui réunit des communautés de blogueurs autour de tous les thèmes, ça peut être la chasse ou la pêche, etc. Là, en l'occurrence, c'est autour d'un homme, d'un projet politique. Et il arrive non seulement à mobiliser des blogueurs, ça crée un vrai effet boule de neige, mais aussi à imposer des thèmes. Et on est en 2004, donc un an après l'invasion de l'Irak par Bush, et Wardeen arrive à imposer le thème de l'Irak dans la campagne, qui gêne un peu tout le monde, parce que tout le monde a voté pour cette invasion militaire.
Au Congrès, du moins. Il obtient, par le biais du net, des cyber-contributions financières.
Oui, c'est aussi la nouveauté, c'est que Internet, tout d'un coup, se révèle un formidable collecteur de contributions financières, qui est quand même le nerf de la guerre dans les élections américaines, comme on le sait.
Le net en fait un moment un candidat vraisemblable, et il s'en persuade lui-même.
Il s'en persuade et il arrive, il faut bien le dire, troisième dans certaines primaires, ce qui lui donne des ailes. Et puis, à ce moment-là, il y a une catastrophe, c'est qu'il est filmé dans un meeting où la sonorité est très mauvaise, et il se met à hurler pour être mieux entendu, et cette scène passe en boucle sur toutes les chaînes de télévision américaines et le fait apparaître comme quelqu'un de vulgaire, d'agressif. Et c'est vraiment la fin de ses espoirs et il se rallie finalement à John Kerry.
Les hommes savants, les commentateurs patentés ont donc conclu « c'est une bulle Internet de plus ». Cependant, des gens qui avaient travaillé avec lui, on les retrouve dans une équipe nette qui va contribuer à la campagne de 2008 d'un autre élu venu du diable Vauvert et peu connu, qui s'appelle Barack Obama. C'est important le rôle des équipes nettes parce que ce sont des primo-accédants à la politique souvent qui les constituent.
Oui, en fait, on voit qu'il y a un vivier qui est issu de la Silicon Valley, donc du secteur de la zone technologique majeure de Californie, et que ce sont ces ingénieurs, parce que ce sont des gens qui ont un vrai savoir-faire scientifique, qui viennent et qui se mettent au service des candidats.
Et c'est eux qu'on drague maintenant.
Aujourd'hui, ils sont. Je pense qu'Hillary Clinton a plus de 200 personnes aujourd'hui dans cette équipe technique, mais à l'époque, surtout de la première campagne d'Obama, c'était très nouveau et ils sont arrivés avec un savoir-faire sur le ciblage, par exemple, comment déterminer qui on va toucher avec nos messages, comment utiliser les algorithmes et la technologie des réseaux sociaux qui permettent de mettre en relation les gens qui se ressemblent et qui ont des choses en commun, au service de la pensée d'un candidat.
Commentaire savant par un animateur d'une équipe Net française bien connue, la Net Squad, qui est allé suivre ce qui se passait chez Obama en 2008.
Ce qui a été très fort chez Obama, c'est qu'il allait à la télévision, qu'il structurait ensuite dans son site internet, et qu'enfin, il renvoyait les gens sur le terrain.
Tout ça, ça a été possible comment ? Obama, il a réussi, d'une certaine manière, à faire un truc complètement dingue. Il a réussi, un, à salarier 2500 cadres. Ce qu'on appelle des leaders, des community organizers, 2500. Ces 2500 cadres, salariés par la campagne, ont été chargés de coordonner, de former et d'encadrer des millions de volontaires. Et ce sont ces millions de volontaires qui sont allés faire du porte-à-porte. Ils ont frappé à 68 millions de portes. Ils ont rencontré des millions et des millions de gens. Souvent, ils les ont vus 5 fois. Et ce qui est intéressant dans le rôle d'Internet dans tout ça, et dans le réseau social qui a été mybarackobama.com au centre de tout ça, c'est qu'il permet de faire deux choses complètement opposées. Il permet de donner une responsabilité et une liberté d'auto-organisation des troupes sur le terrain qui est absolument considérable. Ils font confiance à leurs militants. Et à ces militants, ils leur donnent du pouvoir. Ils leur donnent des informations, des numéros de téléphone qui appeler. Ils leur donnent la liste des électeurs auxquels il faut aller se présenter. Et en ciblant évidemment le plus possible des gens qui ressemblent aux électeurs qu'ils envoient frapper à la porte. Toute cette autonomie et cette liberté qui est donnée aux volontaires, elle se fait également avec une extrême centralisation de la chaîne de commandement. C'est-à-dire que tout ça est répertorié et suivi par les leaders. Et les leaders eux-mêmes sont suivis par l'état-major.
À Benoît Thiolin, qu'on vient d'entendre au micro de David Abiker, on peut rendre grâce d'avoir employé le mot « ciblage », mais le mot « savant », qui est nécessairement anglais, que vous allez nous expliquer, Pierre Aski, c'est « mapping ». On fait la carte des comportements des uns
oui,
et des autres.
En fait, aujourd'hui, les partis politiques américains peuvent déterminer à la maison près l'orientation politique des Américains, des citoyens américains. C'est absolument phénoménal, mais c'est le résultat, le croisement de la géolocalisation, du big data, donc de l'accumulation de données qui est faite et qui permettent aujourd'hui de déterminer avec précision dans quelle rue il faut faire placer tout l'effort pour faire changer d'avis.
Parce que ceux qui sont déjà convaincus d'un côté ou d'un autre, c'est pas la peine d'aller les secouer.
Oui, tout à fait. C'est là la force de cette précision extrême du ciblage, c'est que on peut aller vers les hésitants, vers les gens qui, aux dernières élections, ne sont pas allés voter, par exemple, et qui pourraient faire la différence.
Ce sont cependant des militants, pas des militants qui sont inscrits nécessairement dans un parti pour une longue durée, qui vont sur le terrain faire un travail de sentinelle. La campagne d'Obama débouche sur une organisation de terrain.
C'est ce qu'expliquait bien Benoît Thiolin, c'est qu'on passe là à... Internet n'est plus un espace différent, un espace virtuel uniquement. On passe du virtuel au réel en permanence. Et ce qu'il racontait sur les 68 millions de maisons ou d'appartements qui ont été visités, on l'a vu en France au moment de la campagne de Hollande. La campagne de Hollande, donc, en 2012, postérieure à celle d'Obama, s'est inspiré d'énormément de choses, d'éléments de la campagne d'Obama. Et ce que Thiolin a fait, c'est-à-dire d'aller voir sur place comment ça marchait, tous les partis politiques du monde entier ont envoyé des émissaires aux États-Unis pour essayer de comprendre comment Barack Obama avait fait.
Bon, à ceux qui sont un peu étonnés de voir l'exposé de ces nouvelles méthodes, et avant qu'on ne passe à 2016, un temps de répit qui nous ramène au temps d'autrefois, Radio Nostalgie. À l'époque, Jacques Lang en France collectait, vous vous souvenez, des noms pour les comités de soutien. Aujourd'hui, ce serait presque contre-productif. Et aux États-Unis, on avait déjà donné l'exemple dans ce domaine. La campagne de Kennedy avait été ainsi appuyée par Sinatra.
Everyone is voting for Jack, 'cause he's got what all the rest lack. Everyone wants to back Jack. Jack is on the right track, 'cause he's got high hopes. He's got high hopes. 1960's the year for his high hopes. Come on and vote for Kennedy. Vote
Oops, there goes the opposition girl. Oops, there goes the opposition girl. Oops, there goes the opposition girl. Pop. K-E-double-N-E-D-Y. Jack's the nation's favorite guy. Everyone wants to back Jack. Jack is on the right track, 'cause he's got high hopes. He's got high hopes. 1960's the year for his high hopes. Come on and vote for Kennedy. Vote for Kennedy. Keep America strong. Kennedy, he just keeps rolling up. Kennedy, he just keeps rolling along. Vote for Kennedy.
La marche de l'histoire. France Inter, Jean Lebrun.
Ça aurait été bien de faire l'histoire musicale des campagnes américaines. Pierre Aski, vous avez aimé cette chanson?
Elle est formidable.
Pourquoi?
Parce que les paroles sont extraordinaires. C'est une belle chanson, le talent de Sinatra. Et c'est assez stupéfiant de comparer avec ce qui se passe depuis.
Parce que, rappelez-vous, vous êtes ici pour parler de l'histoire numérique
absolument.
Des campagnes américaines. Oui. On en était à la campagne premier mandat de Obama 2008. 2012, pas de changement majeur.
Non, on est dans le perfectionnement. C'est-à-dire qu'on est... Et entre 2008 et 2012, la mobilisation ne s'est pas arrêtée. Et ce qui est très intéressant, c'est que tout ce dispositif technique est resté en place. La collecte de fonds, en particulier, a continué. Je me souviens d'avoir rencontré chez Benoît Thuelin, d'ailleurs, qu'on écoutait tout à l'heure, les représentants de la campagne d'Obama qui expliquaient qu'ils partaient un an avant l'élection avec des fonds qui étaient déjà presque suffisants pour écraser leurs concurrents. Donc on est dans quelque chose qui s'était perfectionné.
D'où le commentaire des experts patentés. Bah, ça y est, on a trouvé une vitesse de croisière, quelque chose de stable.
Oui, tout à fait. L'idée, c'était qu'effectivement, on était dans une nouvelle ère et que d'élection en élection, on allait perfectionner le système, comme ça avait été le cas avant.
C'était... D'autant que l'élection de 2002 se fait entre deux gentlemen. McCain et Kennedy.
Oui, tout à fait, qu'il n'y a pas de...
Il y a peu de violence dans les argumentations.
Ou de véritables surprises, d'ailleurs.
Alors, qu'est-ce qui change avec 2016? C'est l'internaute qui change. L'internaute, c'est démultiplié. Surtout, l'émetteur de messages, c'est démultiplié.
Je crois que ce qui change, c'est d'abord la place des réseaux sociaux qui est devenu central dans notre vie et dans notre manière de nous informer. Aux États-Unis, Facebook est aujourd'hui le premier point d'information pour les Américains.
C'est-à-dire que dans un premier temps, Facebook renvoyait sur les médias traditionnels, faisait rebondir les propos des médias traditionnels, les commentants.
Oui, exactement. Et les gens venaient quand même sur les sites d'information des médias pour s'informer. Aujourd'hui, Facebook a mis en place une stratégie pour que vous passiez votre temps sur Facebook. Donc, y compris pour accéder à l'information. Et donc ça change complètement la donne. C'est-à-dire que la campagne électorale, elle se déroule certes à la télévision, parce que la télévision reste un lieu central dans la vie publique, on le verra d'ailleurs avec le débat de ce soir, mais les réseaux sociaux ont une autre dimension.
Et la radio et la télévision commentent les réseaux sociaux maintenant.
En particulier, mais il y a les réseaux sociaux qui rencontrent Donald Trump, parce que quand même, on ne peut pas parler de cette campagne sans la personnalité absolument extravagante de Donald Trump, parce que c'est lui quand même qui fait le show. On sait que c'était un homme de télévision avant, mais il a conçu sa campagne électorale comme un gigantesque show sur la durée.
Et là où Obama, en 2008, menait les gens sur une seule route, avec toujours un peu les mêmes arguments autour desquels il essayait d'agréger ceux qui n'étaient pas convaincus, Trump s'est fait la spécialité de l'embarder.
Il a ce qui a changé également, je pense, et là c'est un climat politique beaucoup plus large que simplement celui de l'information, c'est que les gens qui soutiennent Donald Trump veulent envoyer un message à l'establishment américain, qui est celui de leur révolte de gens qui se sentent marginalisés, qui se sentent exclus, qui se sentent les perdants de la transformation de leur pays et du monde. Et que, peu importe les faits, au bout du compte, et que Donald Trump, de ce point de vue-là, les a servis, parce qu'il sert un message dont tout le monde se moque de savoir s'il est vrai ou pas.
Mais il y a quand même des vérificateurs qui, sur les réseaux sociaux, ne cessent d'intervenir.
Mais c'est là qu'on n'est pas dans une évolution linéaire par rapport à ce qu'on imaginait du web il y a 10 ans ou 15 ans. Il y a 10 ans ou 15 ans, on pensait qu'on allait effectivement améliorer tout ça d'année en année, et en particulier l'arrivée des, ce qu'on a appelé les fact-checkers.
Nouveau mot, hein.
Un mot de plus. Donc les vérificateurs de faits, de données, qui sont apparus sur tous les sites. On en a en France profusion, mais aux États-Unis il y en a évidemment énormément. Et l'idée, c'était que lorsqu'un homme politique parle et donne un chiffre, donne un fait, ben, les fact-checkers sont là derrière et dans les 5 minutes vous disent c'est vrai, c'est faux. Il y a même un qui avait un nez de Pinocchio et que selon le degré de véracité de la donnée,
le
nez s'allongeait. Et là, on est avec un homme, Donald Trump, qui, d'après les fact-checkers, a dit 78% de mensonges en un an dans tous les faits qu'il a énoncés. Et pourtant, il continue de monter dans les sondages et il menace réellement Hillary Clinton aujourd'hui.
Et il intervient personnellement avec je ne sais combien de tweets, je ne sais combien de millions d'abonnés. Il paraît qu'il ne dit pas la même chose quand il tweete sur iPhone et sur Android.
Alors, je pense qu'il est lui-même très accro à l'un des systèmes et donc c'est pas lui qui doit faire l'autre.
Les deux, voilà.
Et
le vrai Trump, celui qui dit faux, il faut le chercher sur
son compte
ou iPhone ou sur Android, mais pas sur les deux.
Son compte s'appelle Real Donald Trump. Et c'est là qu'il faut faire la comparaison entre les deux comptes Twitter. C'est passionnant. Le compte Twitter d'Hillary Clinton est remarquablement bien fait, extrêmement professionnel. Ce matin, elle avait une petite vidéo sur les dangers que représentait Trump en politique étrangère, son amour pour Poutine, ce qu'il a dit de légèreté sur l'arme nucléaire, etc. Et de l'autre côté, vous avez un homme qui tweete lui-même la plupart du temps, il y passe énormément de temps, et il lance des choses mais complètement extravagantes. Il continue à parler d'Hillary Clinton comme d'un escroc, etc.
Tweeter ou retweeter, va-t-il succession maintenant? Regardez la première des trompettes, enfin la dernière en date de ses épouses, Melania. Elle était l'invitée d'un talk show, Amity, sur la Fox.
Arrêtons-nous un instant sur votre famille. Je veux dire, il y a eu une campagne vous attaquant personnellement. Cela vous a-t-il blessé?
Je suis une personne forte, mais je pense que c'est injuste qu'ils attaquent les familles, les femmes ou les enfants. C'est injuste.
Vous avez dit que vous aimeriez que Donald soit plus présidentiable de temps en temps. Pouvez-vous nous expliquer cela?
Eh bien, parfois, j'ai l'impression que les retweets qu'il publie lui attirent des ennuis. Alors, je lui dis de ne pas retweeter, d'éviter les retweets. Si seulement il pouvait écouter. J'aimerais qu'il fasse plus attention, mais il se débrouille très bien.
Bah, il retweet, en fait.
Il retweet, mais il a eu quelques ennuis parce qu'il a retweeté notamment des gens du Ku Klux Klan, il a retweeté un néo-nazi, enfin bref, il s'est un petit peu parfois emmêlé les doigts en retweetant, mais ça lui porte pas du tout tort.
On a entendu des échos du public riant dans ce talk show. Quand même, entre le monde du net tel que vous l'avez connu quand vous fondiez rue 89, que vous rêviez d'un espace public, et le monde du net aujourd'hui, il y a une telle différence qu'on pourrait presque se dire que le monde du net ressemble davantage à la télé-réalité, à la télévision la plus épaisse, qu'aux finesses du net débutant.
Oui, c'est vrai, mais les deux mondes coexistent, c'est-à-dire qu'il y a effectivement un net sérieux et un net qui est devenu une sorte de spectacle permanent, de show permanent. Il y a une photo extraordinaire qui circule depuis 24 heures sur les réseaux sociaux où on voit Hillary Clinton qui est sur un podium et puis en face d'elle, vous avez la foule qui lui tourne le dos, non pas pour exprimer son mécontentement, mais pour prendre des selfies avec elle. Et ça, ça résume un peu l'époque, c'est-à-dire qu'on va voir Hillary Clinton pour se prendre en photo avec elle et mettre sur son compte Instagram, pas tellement pour écouter ce qu'elle a à dire.
Je reviens au talk show. Michelle Obama se prête à beaucoup de talk shows. Le dernier en date, une cabane comme les enfants s'en construisent, et puis devant, l'animateur et elle... couchés sur un duvet, vous savez, comme des enfants, et ils se racontent les rêves qu'enfants ils auraient pu avoir. Alors ici, c'est un autre accessoire qui est mis en avant dans le Kimmel Show. C'est un grand bol de bonbons. Dans les bonbons, il y a les tweets, je ne sais pas s'il y a les retweets de Donald Trump mis par écrit sur des petits bouts de papier pliés en quatre, j'imagine. Et c'est Hillary Clinton qui est là la vedette et non pas Michelle Obama.
If you're able to read them without laughing, you get to keep.
Allons-y. Je pioche au hasard.
Oui, prenez celui que vous voulez.
Je crois que c'est une bonne chose de s'excuser, mais pour cela, il faut avoir tort. Il est certain que je m'excuserai un jour, j'espère dans un futur lointain, si jamais j'ai tort.
All right, well done. Well done.
Profound. That's profound. C'est très profond. J'ai un grand respect pour les femmes, c'est moi qui ai brisé le plafond de verre au nom des femmes, plus que quiconque dans l'entreprise du bâtiment.
Pensez-vous qu'il parle d'une véritable plaque de verre qu'il aurait brisée ?
Il me semble que beaucoup de ses propriétés ont des plafonds en verre. Je ne peux pas lire ça.
Si Ivanka n'était pas ma fille, je sortirais peut-être avec elle. Nous ne les avons pas inventés, hein. Ce sont de vraies citations. Très bien, vous pouvez garder le bol, vous pourrez le remplir de bonbons.
Le bol rempli de bonbons à la télé, et voyez comme tout saute, gambade et rebondit, Donald Trump Jr., a parlé lui aussi d'un bol de bonbons.
Oui, tout à fait. Il a fait la comparaison entre les bonbons donc de son bol avec des réfugiés syriens en disant que s'il y en avait dans ce bol deux ou trois qui pouvaient être des terroristes, dans ce cas-là, on ne piocherait pas dans ce bol. Et ça a évidemment choqué une partie de l'Amérique, mais ça en fait rire une autre. C'est ça le problème aujourd'hui. Et en particulier... il y a une partie du web aujourd'hui aux États-Unis, mais pas seulement aux États-Unis, ce qu'on appelle les trolls, c'est-à-dire, encore un mot...
nouveau mais ancien.
Voilà,
qui est pas explicité.
Exactement.
Alors les trolls.
Mais qui sont des utilisateurs anonymes d'Internet qui viennent pour provoquer, choquer, et qui jouent de ce trouble qu'ils suscitent et de cette perturbation qu'ils créent. Et aujourd'hui, dans la campagne électorale américaine, les trolls jouent un rôle clé. Il y a même un site américain qui a titré « Les trolls sont les vainqueurs de l'élection de 2016 ».
Mais y croient-ils, ceux qui émettent des messages aussi farfelus, aussi excessifs ? Y croient-ils ou sont-ils, on est dans une émission d'histoire quand même, comme les Romains de la fin de la République qui ne croyaient plus en leur Dieu ?
Je pense que la question d'y croire ou de ne pas croire n'est plus importante aujourd'hui. Ah. On est dans une bataille entre ce qui est perçu comme l'establishment, c'est-à-dire Hillary Clinton, et ce qui est perçu comme, alors ça nous surprend nous de France, de voir un milliardaire comme Donald Trump incarner l'anti-establishment. Donc, mais c'est le cas en tout cas dans cette campagne, et c'est de ça qu'il s'agit, c'est-à-dire est-ce qu'on envoie un message de refus, de dire non à l'establishment, et c'est de ça qu'il s'agit aujourd'hui, ce qu'il y a dans le message importe peu.
Au moins il y a quelque chose de satisfaisant d'un point de vue historique, c'est la démonétisation des sondages, parce que le sondage c'est grossoyant, vous voyez, c'est grosso modo, tandis que là il s'agit d'individus qui se répondent les uns aux autres et qui font tache d'huile.
Oui, c'est, d'une certaine manière il y a quelque chose de jubilatoire à voir cette disruption, pour reprendre encore ce mot, c'est-à-dire que là où on aurait pu voir un rouleau compresseur avec les ingénieurs de Facebook qui auraient assuré la victoire d'Hillary Clinton, on voit qu'un homme, je ne dis pas un homme seul, mais en tout cas un homme avec sa personnalité mise en avant, arrive à casser le bel exercice politique qui était en train de se faire. Après, il peut être inquiétant et on n'a pas forcément envie de le voir gagner. Mais en tout cas, le fait que le scénario prévu d'avance ne se réalise pas comme prévu, c'est assez jubilatoire.
Oui, on s'amuse, mais enfin, on s'amuse à mort, peut-être. Je signale Pierre Aski, en sus de vos commentaires qu'on peut lire toujours sur Rue 89, un livre qui paraît chez Slatkin de deux journalistes suisses, Bussard et Motaz, et qui s'appelle Hashtag Trump. L'émission a été préparée par Mathilde Novel avec Valéria Estaraya. La réalisation, Ronan Mahé à la technique. Et chez vous, Mathieu Vidard, dans un instant.
On va se demander ce qui se passe dans la tête des champions pour parler de leur mental avec Myriam Salmi, Hubert Ripoll, qui sont psychologues, et le champion de tennis, Mickaël Jérémiaz.
Pierre Aski, lui, s'est mis dans la tête de Donald Trump. Aujourd'hui, il est 14h, vous écoutez France Inter.